La journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Fobodioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire, deux militaires ont été tués ce samedi dans une embuscade à une dizaine de kilomètres de Mangodara dans la Komoé. Le comité international mémorial Thomas Sankara demande la retransmission du procès du père de la Révolution à la radio nationale afin de permettre au peuple burkinabé de suivre les débats. Le procès sur l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, c'est pour le 11 octobre prochain. Hors de nos frontières au Mali, un casque bleu a été tué dans le nord-est du pays. Les États-Unis ont dépassé le cap des 700 000 morts de Covid-19. C'est le pays qui enregistre le plus de décès devant le Brésil et l'Inde. Et puis FESPACO 2021, à moins de deux semaines de l'événement, la présidente du comité national d'organisation, Alizata Dabiré Sawadogo, rassure, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l'événement. Elle est notre invitée du jour. Deux militaires ont été tués ce samedi matin lors de l'explosion d'un engin des forces de défense et de sécurité à une dizaine de kilomètres de Mangodara, province de la Komoé, région des Cascades, a pris Oméga de sources locales. Selon notre source, une moto des forces de défense et de sécurité a sauté sur une mine entre Tiefesso, 7 kilomètres de Mangodara, et Noumoutiédougou, 11 kilomètres de Mangodara. L'explosion a été suivie d'échanges de tirs entre les militaires et des personnes armées non identifiées, précise la même source. On apprend également que le véhicule transportant les corps des deux militaires tués lors de l'explosion de leur engin dans la commune de Mangodara a sauté sur une mine sur l'axe Mangodara-Banfora, a indiqué un témoin à Omega Media. La présence d'un renfort aérien hélicoptère de l'armée a été aperçue dans la zone depuis ce matin, précise la même source. Pour l'instant, pas de bilan pour ce nouvel incident terroriste qui survient en l'espace de quelques heures dans cette partie de la Komoé. Et c'est dans ce contexte d'insécurité que s'est effectuée hier, 1er octobre, la rentrée scolaire 2021-2022, mais également la rentrée judiciaire qui s'est tenue sous le thème « La contribution du pouvoir judiciaire à la lutte contre le terrorisme ». Régis Bonny.
Hymne national et salutations ont marqué le début de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2021-2022. Cette année judiciaire s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Rockmark Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil supérieur de la magistrature.
Ce qui a été développé ici comme thème, c'est la contribution de la justice à la lutte contre le terrorisme. Toutes les institutions de la République, notamment les trois piliers, le judiciaire, l'État et également les forces de sécurité que nous avons, nous devons travailler à faire en sorte de contribuer à la lutte contre le terrorisme.
Cependant, dans l'exercice de leurs fonctions, les acteurs judiciaires rencontrent beaucoup de difficultés. Rockmark Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Burkina Faso s'est déjà doté de plusieurs textes. Maintenant, le constat qu'on fait, il n'y a pas de moyens humains, financiers, pour aider ces juridictions à pouvoir assurer leur mission. On se félicite déjà du fait que nous avons pu tenir une première session de jugement des terroristes. Et je veux vous dire que j'ai noté toutes les préoccupations et nous ferons en sorte que l'État puisse effectivement satisfaire à ces conditions-là.
Le président du Conseil supérieur de la magistrature a invité les trois pouvoirs que sont le législatif, le judiciaire et l'exécutif, à se mettre ensemble dans la lutte contre le terrorisme.
Et puisqu'on parle de justice, le procès sur l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, c'est pour le 11 octobre prochain. Seul rescapé de cette opération macabre, Aluna Traoré est une pièce maîtresse dans le témoignage, notamment dans la reconstitution des faits. Il sera l'invité de votre émission Tribune demain dimanche à 20h30. Aluna Traoré dit avoir confiance en la justice burkinabé.
Ce procès l'a voulu accorder un crédit, ça va aboutir.
Bon, il paraît que chez nous, les Moussi, on dit « Saint-Wal, pardon, tout le sourire ». C'est-à-dire, c'est ce qui est arrivé là, ce sont ces restes qui suivent la voie. Donc, il faut croire en nos institutions. 34 ans après, on se rappelle l'histoire. Pour une fois, on fait le procès de la révolution, le 15 octobre, les tenants et les aboutissants. Si cette vérité-là est connue, et je n'ai pas de raison de douter, les gens ont fait du travail, on a eu de la documentation, c'est à nous maintenant de savoir tirer les leçons, les enseignements de ce procès-là. Ça nous amène à nous regarder dans le miroir, le tort qu'on s'est fait nous-mêmes, les Burkinabés, avec la complicité de l'extérieur. Parce que il y a le côté matériel qui s'est passé au Burkina, mais les auteurs, les vrais auteurs sont de l'extérieur.
Les commanditaires.
Les commanditaires, voilà. Si le procès nous permet de revoir tout ça, et maintenant, l'homme burkinabé sera mis face à ses responsabilités.
Toujours sur ce procès important pour les Burkinabés, le comité international mémorial Thomas Sankara demande la retransmission du procès du père de la Révolution à la radio nationale afin de permettre au peuple burkinabé de suivre les débats. Demande formulée ce matin au cours d'une conférence de presse. Le bilan provisoire des activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre du mémorial Thomas Sankara a également été fait. Abdulaziz Zoulabou.
34 ans après l'assassinat du père de la Révolution et 12 autres de ses compagnons, une lueur d'espoir se présente aux parents des victimes. La date du 11 octobre est celle retenue pour ce procès emblématique. De quoi réjouir le colonel Pierre Ouedraogo, président du comité d'orientation du mémorial Thomas Sankara.
Nous avons le privilège d'assister à l'aboutissement de cette longue attente. Et nous ne pouvons que rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour nous mettre debout aujourd'hui. Les acteurs de la société civile sympathisant de l'idéal du président Thomas Sankara souhaitent que ce projet soit enregistré pour servir d'outil pédagogique. Au mieux, il serait bon d'en faciliter la radiodiffusion.
En ce qui concerne le mémorial Thomas Sankara, plusieurs actions ont été menées depuis 2016, parmi lesquelles l'initiation d'une campagne de levée de fonds et une récolte d'archives au profit de la future bibliothèque du mémorial. Colonel Pierre Ouedraogo.
Mobilisation immédiate le jour du lancement, 55 millions de francs CFA. Promesse non libérée des entités privées en 2017, 1,2 milliard de francs CFA composés de promesses d'agrégats et de matériel. Enfin, promesse non libérée de l'État du Burkina en 2018 de 3 milliards. La question du foncier du site du mémorial Thomas Sankara, ex-conseil de l'entente, est en cours de résolution.
L'ambassadrice de Cuba, Nadieska Navarro Baro, était également présente à ce point de presse. Cuba, pays ami du Burkina, a toujours manifesté un intérêt particulier pour la personne de Thomas Sankara, qui de son vivant a envoyé des Burkinabés étudier dans le pays de Fidel Castro.
L'Association pour l'entrepreneuriat vert et de développement durable a remis 100 tables, bancs et de bureaux au collège des jeunes filles de Lumbila à la fin du mois de septembre, du matériel fabriqué à partir de déchets plastiques recyclés. L'initiative vise à interpeller et attirer l'attention des plus jeunes sur la protection de l'environnement. Ces actions écologistes ont été réalisées grâce au soutien de l'OIF. Le compte-rendu de Pierre Badolo.
Des tables, bancs et bureaux écologiques faits à base des ordures recyclées pour une gestion durable afin de lutter contre la déforestation dans les pays de l'Afrique. Carl Vintiam, président de l'association EV2D.
Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Burkina Faso, on vit un problème de déforestation. Or, la plupart des tables bancs sont faites à partir de bois. Or, nous avons ce qu'on appelle de l'ordure. Mais une fois qu'elle est triée, notamment les déchets deviennent de l'ordure. Donc aujourd'hui, on sait donc comment jeter de la matière première, donc c'est transformer dans ce table banc à partir des déchets plastiques. C'était vraiment un challenge pour nous.
La direction du collège des jeunes filles de Lumbila, quant à elle, traduit sa reconnaissance et ses vifs remerciements aux donateurs et à ses partenaires pour le geste et le message sensibilisateur. Salamata Kabore, directrice du collège des jeunes filles de Lumbila.
Nous sommes les plus heureux ce soir, rien qu'à voir les visages, la joie et la satisfaction se lisent sur tous les visages, comme pour traduire toute notre reconnaissance à l'association et aussi à l'OIF.
L'OIF accompagne les structures et associations œuvrant dans le cadre de la protection de l'environnement et la planète. Et à cette occasion, elle exhorte les jeunes à s'investir dans les actions écologistes. Monpetit, administrateur de l'OIF.
On n'a qu'une seule planète, il faut s'en occuper. Et je pense que la jeunesse, ce qui est très positif, c'est qu'ils sont beaucoup plus engagés et beaucoup plus sensibilisés à ces questions que d'autres générations comme la nôtre, peut-être, ne l'étions à cette époque. Et donc, c'est très important. C'est un projet qui vise justement à aider le développement durable ici au Burkina Faso en aidant à combattre contre la déforestation, la pollution des déchets plastiques.
L'association EVDD n'entend pas se limiter à cette action. Elle entrevoit des actions de remise de tables, bancs et bureaux au collège des jeunes filles de Saint-Camille le 4 octobre prochain et une série de remises dans d'autres établissements de Burkina Faso.
La gendarmerie de Poura bénéficie d'un nouveau bâtiment et de matériel informatique pour faire face au terrorisme et au grand banditisme. En plus de la question sécuritaire dans la région de la boucle du Moun, c'est le village de Bandjo dans la commune de Bagassi qui bénéficie d'un CSPS. Quant au village de Yamané dans la commune de Pa, c'est la population qui se réjouit de la construction d'un pont, un rêve qui devient une réalité après plus de 12 ans de calvaire. Ces trois joyaux dont bénéficie la province des balais ont été inaugurés le jeudi 30 septembre par le ministre en charge de l'économie, Lassane Kabore, accompagné de son homologue de la sécurité, Maxime Koné. Le résumé de ces inaugurations avec Charles Da.
Sécuriser dans un état d'insécurité est une réalité que vit la gendarmerie de Poura, installée depuis 1984. Bâtiments délabrés, conditions de travail non confortables, surtout en cette période d'insécurité. Aujourd'hui, c'est la fin du cauchemar. La gendarmerie de Poura est entièrement rénovée pour mieux accomplir sa mission. Maxime Koné, ministre de la Sécurité.
Plus nous avons des postes de sécurité, plus l'insécurité recule. Et nous avons saisi l'occasion pour encore rappeler le contexte sécuritaire difficile de notre pays et appeler les uns et les autres à travailler en parfaite osmose avec le gouvernement et pour l'avènement d'une paix durable.
Après Poura, direction à Bandjo, dans la commune de Bagassi. Dans ce village, avoir des soins sanitaires était un véritable parcours de combattant. Mais avec ce CSPS, ce n'est pas seulement les ressortissants de Bandjo qui s'en réjouiront, mais la commune tout entière. Estelle Bazongo, médecin généraliste.
Ce CSPS vraiment vient à point nommé pour réduire la distance. La population de Bandjo parcourait environ une vingtaine de kilomètres pour se rendre au CSPS de Wabou pour pouvoir bénéficier des soins.
Pour être sécurisé et être en bonne santé, il faut bien avoir des voies d'accès et c'est tout le souci des habitants de Yamané, village situé dans la commune de Pa. Salimata Christine Bonou, maire de la commune de Pa.
C'est plus de 12 ans qu'on a passé le temps à chercher un financement pour réaliser cette voie. Une voie de 12 kilomètres. Depuis 12 ans, on a tapé à toutes les portes. Je vous dis, 12 kilomètres, on pouvait facilement mettre 45 à 1 heure de temps pour arriver. Et vous voyez le pont là, on a perdu des vies sur cette voie, surtout des femmes au cours de l'accouchement. Puisqu'à l'époque, dans les années 2006, là, il n'y avait pas de CSPS, il n'y avait pas de route. Pour évacuer un malade, il fallait l'amener en charrette, venir garer devant, traverser, pour que l'ambulance puisse prendre un malade.
Pour le ministre en charge de l'économie, Lassane Kabore, la réalisation de ces trois joyaux dans la boucle du Mouhoun était une mission qui s'est assignée son département.
La gendarmerie, c'est la sécurité. Et sans sécurité, il serait difficile de parler de développement. Le CSPS, c'est la santé. Si vous n'avez pas une population en bonne santé, vous ne pouvez pas aussi bâtir le développement. Et enfin, Yamané, c'est des points de franchissement, des ponts, la route. Et naturellement, on dit que le développement passe par le développement de la route. C'est pour dire que ces trois symboliques que j'ai voulu marquer aujourd'hui rentrent justement en droite ligne des missions qui ont été assignées à mon département.
Les fils et filles de la région se réjouissent de ces réalisations. Cependant, ils ont souhaité que ces actions s'étendent dans toute la boucle du Mouhoun.
L'actualité internationale, un casque bleu de la MINUSMA a été tué et trois autres blessés lors de l'explosion d'un engin explosif improvisé ce samedi près de Tessalit dans le nord-est du Mali, a annoncé le chef de la MINUSMA, El Gassim Wan, sur Twitter. Et plus de 700 000 personnes ont succombé au Covid-19 aux États-Unis depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. communiqué vendredi 1er octobre, l'équivalent de la population de la capitale Washington, ce sombre cap vient rappeler que des centaines d'Américains continuent à mourir chaque jour du coronavirus malgré la campagne de vaccination. Les États-Unis sont officiellement de loin le pays enregistrant le plus lourd bilan lié au COVID-19 selon les données communiquées par les autorités dans le monde devant le Brésil et l'Inde.
Omega Sport.
La coupe du directeur général de l'Office national d'identification a connu son apothéose le jeudi 30 septembre sur le terrain de la Carrefour à Ouagadougou. Cette compétition a réuni 16 équipes et la finale a opposé celle de la direction des sports, des arts et de la culture de la police nationale à celle de la caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Au coup de sifflet final, c'est l'équipe de la DSAC qui est venue à bout de la Carrefour 2-1. Jacob Comporé et Bernabé Cabré pour le reportage.
L'équipe de la DESAC, la Direction des Sports, des Arts et de la Culture de la Police Nationale, est la plus forte de toutes celles qui ont participé à la 3e édition du tournoi du directeur général de l'Office National d'Identification, ONI. Déjà vainqueur l'an passé, les policiers ont sorti le grand jeu pour s'offrir la Carrefour 2-1 et conserver ainsi leur titre à l'issue d'un match âprement disputé. Aimé Césaire Wandago, capitaine de la DESAC.
C'était un match âprement disputé, mais on était sûr de nos forces. Et Dieu merci, on a empoché les 3 points de la victoire. C'est un sentiment de joie qui nous anime ce soir puisque nous avons conservé notre titre. Et à noter que l'année passée, nous l'avons remporté contre la douane et cette année, nous l'emportons encore contre la Carrefour.
La Carrefour, battue sur ses propres installations, pointe du doigt le manque de réalisme pour justifier cette défaite. Fabrice Awadgo, capitaine de l'équipe perdante.
C'était pas un match si facile, mais Dieu merci, c'est le fair play qui gagne. Donc, nous allons bien nous préparer pour revenir l'année prochaine. Et nous pensons que nous allons prendre notre revanche. On a été moins réaliste au niveau des buts. Mais je pense que les prochaines éditions, nous allons revenir avec les meilleures forces.
L'objectif de l'ONI à travers ce tournoi est de renforcer ses liens de fraternité avec les autres institutions, selon son directeur général. Aristide Béré, directeur général de l'ONI.
Nous avons assisté à une très belle finale. Vous avez vu que les deux équipes ont vraiment mouillé le maillot, comme on le dit. Ça s'est passé dans un excellent esprit aussi. Et la direction des sports, des arts et de la culture du ministère de la Sécurité a remporté la coupe, c'est vrai. Mais au-delà, c'est l'ensemble des équipes participantes qui ont remporté la coupe parce que c'était ce que nous recherchions. C'était pas, on n'organisait pas la coupe pour que le ministère gagne. On n'organisait pas pour que l'ONU remporte la coupe. On organisait de sorte à ce qu'il y ait une meilleure fraternisation et on a eu l'illustration à travers cette finale qui s'est excellemment bien déroulée.
L'équipe de la DESAC, vainqueur du tournoi, a reçu 100 000 francs CFA, un trophée et des médailles, 75 000 francs CFA et aussi un trophée et des médailles pour la Carrefour, finaliste malheureuse. Rendez-vous est pris en 2022 pour la 4e édition.
Et puis les matchs de la 2e journée du championnat national se sont poursuivis ce samedi. L'AS Police a infligé à l'ASEC sa 2e défaite en l'emportant 2-1 à Ouaga. L'ASFA Yenenga est allé dominer l'AS Kuritinga 1-0. L'EFO est allé contraindre l'ASFB au nul 0-0. La 2e journée prend fin dimanche avec 3 oppositions. Vitesse FC contre Salitas FC au stade Wobi à 15h30. RCK Majestic SC à Issoufou Joseph Konombo à 15h30 et USFA Royal FC à Issoufou Joseph Konombo à 17h45.
L'invité du jour. L'invité du jour.
FESPACO 2021, à moins de 2 semaines de l'événement, le comité d'organisation se prononce sur les préparatifs qui vont bon train, selon Alizata Dabiri Sawadogo, la présidente du comité national d'organisation du FESPACO 2021. Elle rassure aussi des dispositions prises pour rendre disponibles des salles de projection cinématographique, de même que des aires de projection au moment venu. Elle répond aux questions d'Asma Odaou.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Où en êtes-vous avec les préparatifs du FESPACO?
Les préparatifs vont bon train. Le comité national d'organisation a été installé officiellement le 16 septembre dernier. La sélection des films a été faite. Les membres des jurys officiels ont été désignés. Donc nous pouvons dire que tout est fin prêt pour le début du festival.
Et la question de la disponibilité des salles, y en a-t-il en nombre assez?
Nous sommes en train de s'activer autour de ces salles-là pour que toutes celles qui sont disponibles et dans les meilleures conditions d'accueil des projections, en tout cas, puissent être prêtes. Il y en a qui ont commencé à rénover leurs salles. Nous avons une liste habituelle que nous utilisons et nous pensons que tout sera mis à la disposition du comité d'organisation.
Et déjà, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'existant des salles qui, en tout cas, sont déjà prêtes à accueillir des projections cinématographiques?
Les salles habituellement que nous utilisons, c'est, je peux dire, les salles emblématiques. C'est le Ciné Neroya, c'est la salle de Ciné Burkina. Il y aura également des projections en plein air et il y en aura également au niveau de Georges Méliès. Et dans les quartiers populaires, il va y avoir des projections, comme je l'ai dit, en plein air.
Avec la crise sanitaire, confirmez-vous la participation des comédiens, réalisateurs et producteurs étrangers? Et
il faut dire que les invitations sont parties depuis un bout de temps, donc nous enregistrons au fur et à mesure des confirmations. On s'est donné une date limite, on pourra dire effectivement qui sera là, qui ne sera pas là.
Combien de professionnels et festivaliers attendez-vous?
Au niveau des festivaliers, nous attendons environ 200. Et au niveau des professionnels, une centaine sont attendus. Et comme je l'ai dit, au fur et à mesure de l'évolution, on sera en tout cas en mesure de vous donner un chiffre exact dans quelques jours.
Le Burkina Faso est-il prêt à relever le défi dans le contexte de la double crise sécuritaire et sanitaire? Y a-t-il un dispositif pour assurer vraiment nos amis étrangers?
Nous mettons les bouchées doubles en collaboration avec les services sanitaires et également les services de la sécurité pour relever ces défis. C'est bien vrai que l'insécurité zéro n'existe nulle part, mais au regard de l'envergure de la manifestation, et nous serons en mesure, au regard de ce qui est prévu vraiment, pour relever ce défi.
On a une opinion mise aux oubliettes et qui est réapparue ces derniers jours, notamment l'organisation d'un FESPACO itinérant en Afrique. Est-ce envisageable?
Je pourrais dire tout simplement que nos devanciers, et il y a déjà une cinquantaine d'années, ont créé le festival à Ouagadougou. Ça a été une joie autour de laquelle beaucoup de pays africains ont adhéré. Et beaucoup se sont battus, comme vous l'avez si bien dit, pour que le festival demeure à Ouagadougou. C'est vrai que le contexte national est un peu difficile au regard de ce que nous traversons, mais nous pouvons dire que Ouagadougou demeure la capitale du cinéma africain. Si vous regardez un peu partout, il y a des festivals qui se tiennent dans d'autres pays africains. Et pourquoi nous, notre festival, on voudrait qu'il se déplace ailleurs? Et nous pensons que les plus hautes autorités ont bien voulu se battre pour que ce festival reste à Ouagadougou. Nous pensons que ça sera également le souhait de tout un chacun pour que le festival demeure burkinabé et ouagadougou.
Les acteurs même culturels qui pensent que l'industrie du cinéma et eux-mêmes acteurs sont relégués aux oubliettes, vous, qu'est-ce que vous pensez de cela?
Comme je l'ai dit, chacun a son opinion. Sinon, nous pensons que chacun, en tout cas, est appelé à mettre la main à la pâte pour que nous puissions réussir ce festival.
Votre mot de fin?
Je veux tout simplement dire merci aux hommes et aux femmes qui se sont engagés dans le comité d'organisation. Et je vais inviter la population de Ouagadougou à s'approprier ce festival parce que nous pensons pouvoir les accueillir dans les salles de ciné, sur les aires de projection, au niveau des animations culturelles également. Et nous pensons que chacun fera un tour pour vivre cette semaine avec nos invités.
Alizette Adabiré Sawadgo, merci.
Je vous remercie également.
À l'instant, la présidente du comité national d'organisation du FESPACO 2021, elle répondait aux questions d'Asma Odao. Fin de ce journal réalisé par Edwige Tiendrebeugo à la retransmission Facebook Charlda. Excellente soirée à toutes et à tous. Radio Omega, l'info en direct.